Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h07 de retour dans les grandes gueules du sport. C'est votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Hein. On commence à 9h. Nous avons parlé de l'Olympique de Marseille. Le vélodrome est-il un problème? N'hésitez pas, après cette émission, à aller réécouter ce passage et ce moment, ce débat en podcast. Toujours ce matin avec Pascal Duprat, Christophe Cessieux, Jérôme Pinault, Marc Madiot. Dans quelques instants, le dossier des GG autour du monoxyde de carbone dans le vélo. 10h30. Pour la première fois depuis son départ du 15 de France, Mathieu Jalibert s'est exprimé, c'était hier, vous l'entendrez en longueur sur les raisons de son départ. Peut-il vraiment revenir en bleu? Ce sera notre débat et puis à partir de 11h, on parlera de Kylian Mbappé. Vous fait-il de la peine avec encore son match raté, son pénalty raté là également en Ligue des Champions cette semaine, c'était face à Liverpool.
RMC, le dossier des GG.
Alors le dossier des GG aujourd'hui, nous allons nous intéresser au monoxyde de carbone. L'utilisation de ce gaz potentiellement létal par au moins 3 équipes cyclistes avait été révélée l'été dernier pendant le Tour de France. 3 équipes dans lesquelles figurent celle de Tadej Pogacar et celle de Jonas Vingegaard, les deux premiers de la Grande Boucle. Cette semaine, l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, a demandé et avait demandé à l'AMA, l'Agence Mondiale Antidopage, de prendre position sur l'inhalation du monoxyde de carbone. La réponse est intervenu vendredi. Oui, il y a un sujet, mais l'instance n'est pas en mesure d'interdire cette pratique controversée. Le monoxyde de carbone, le cyclisme court-il un grand danger? Avant de débattre avec vous les GG, de vous entendre attentivement, notamment Marc Madiot et Jérôme Pinault, on retrouve notre spécialiste vélo Arnaud Souk. Bonjour Arnaud.
Salut les amis.
Alors pour l'instant, c'est circulé, il n'y a rien à voir.
Oui, alors rappelons d'abord un clamat à la responsabilité de bannir les pratiques et les produits dopants dans le monde du sport. Elle a donc confirmé avoir pris connaissance de la question du monoxyde de carbone, mais selon elle, il n'existe pas de consensus général ni de données solides sur la question de savoir si cela peut avoir un effet d'amélioration des performances. Pourtant, l'UCI avait de son côté clairement demandé dans un premier temps aux équipes et aux coureurs de ne pas recourir à l'inhalation de cette substance de manière répétée, ajoutant que seul l'usage dans un environnement médical contrôlé était acceptable. L'utilisation du monoxyde de carbone dans le cyclisme avait été révélée cet été par un site internet spécialisé. Donc, tu l'as dit, Jean-Christophe, parmi les équipes concernées, Israël Première Tech, mais aussi UAE Team Emirates de Tadej Pogacar et Visma Lissebike de Jonas Vingegaard. On se défend du côté des coureurs et des équipes de toute pratique qui poserait problème. On avance finalement pour Pogacar et Vingegaard qui se sont personnellement exprimés sur la question, une utilisation à des fins de test pour savoir comment le corps réagit à l'altitude. Sauf que l'UCI se demande de son côté si le protocole ne pourrait pas être détourné par le biais d'une utilisation répétée pour créer une hypoxie artificielle en recréant les effets d'un effort en altitude, ce qui maximise les bienfaits des stages donc réalisés par les cyclistes. Juste pour terminer, si l'UCI l'interdit, je ne l'utiliserai plus jamais, explique Jonas Vingegaard, assurant au passage qu'il n'utilisait le protocole que pour savoir justement si les camps d'altitude fonctionnaient ou non.
Merci beaucoup Arnaud Souk, tu restes avec nous pour ce débat. Évidemment, le monoxyde de carbone, le cyclisme court-il un grand danger? Sachez que dans quelques instants, un pharmacien et responsable de la rubrique Front du dopage, Marc Kluzinski, sera notre invité pour tenter d'expliquer et savoir si ce produit peut être considéré comme un produit dopant. Le monoxyde de carbone, le cyclisme court-il un grand danger? Marc Madiot.
Oui, on est en danger. Tout simplement pour une bonne raison, c'est qu'on va encore mettre 5 ou 10 ans avant de régler l'histoire, là, parce que le temps que l'AMA, l'UCI, les enquêtes, les tests, les supputations se mettent en place, on en a au moins pour 5 ou 10 ans. Alors là, aujourd'hui, on fait état de 3 équipes qui utilisent ou qui ont utilisé cet appareillage. Alors moi, je vous mets mon billet que de 3 équipes, on va bientôt passer à 5, 6, 7. Puis à 10, puis à 15, puis à 80 ou 90% du peloton.
Tu vas l'utiliser donc ?
Mais je n'ai pas du tout l'intention d'utiliser. Je vais te dire ce qu'il faut qu'on fasse. Et c'est le message que j'ai fait passer au président de l'UCI, parce qu'il y avait un séminaire cette semaine à l'UCI. Malheureusement, pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu m'y rendre. La situation, elle est très simple. On est dans ce monde du cyclisme, une bonne vingtaine d'équipes, on va dire, 25 équipes. Qui faisons 100% du grand calendrier mondial. Alors il y a une chose qui est très simple et très facile, c'est de se dire, nous les patrons d'équipe, on s'engage par écrit et sur l'honneur à ne pas utiliser cette méthode, qu'elle soit bonne, mauvaise, qu'elle apporte un bénéfice ou qu'elle n'apporte pas de bénéfice, on s'en fout. on s'engage à ne pas acheter cet appareillage et à ne pas l'utiliser. Moi, je suis prêt à signer.
C'est le principe du MPCC, ça.
Oui, non, mais...
corticoïdes, par exemple. Qui n'a pas été signé par tout le monde.
Ah ben, qui n'a pas été signé par tout le monde, et surtout qu'on a mis 10 ans à réguler. Donc, c'est simple. On prend un papier, on prend un crayon, ou on le fait par voix vocale pour bien s'affirmer. Moi, je vous dis, devant les auditeurs de RMC, dans mon équipe, personne n'utilisera cet appareillage. Je m'y engage.
Même si les 19 autres le font.
Même si les 19 autres le font. Et j'invite mes collègues d'équipe à avoir la même attitude. Si les 25 patrons d'équipe, les 25 principaux patrons d'équipe dans le monde disent on n'utilise pas cette méthode, on n'utilisera pas cette méthode. Dans le peut-être bien que oui, peut-être bien que non, faut qu'on teste, faut qu'on essaye, faut qu'on voit dans 5 ans, on y est encore et on est plombé, on est mort. Voilà.
Est-ce que je peux poser une question à Marc
Vas-y, Pascal.
Est-ce que tu es comme moi? Moi, j'ai l'impression qu'on se fout vraiment de notre gueule, quoi. C'est-à-dire qu'on est en train de nous expliquer que des hommes, des champions, pour évaluer si le stage en altitude a été bénéfique, ils vont jusqu'à prendre des gaz qui sont... Le gaz est létal.
Ils pourraient
en mourir. Non, mais on se fout pas de notre gueule, là. Donc, est-ce que tu peux répondre à ma question? C'est bien pour augmenter la performance
évidemment.
Des coureurs que ces gaz-là sont utilisés.
C'est pas
des fins d'évaluation.
S'il n'y avait pas quelque part l'idée d'améliorer la performance, on ne serait pas dans cette attitude. Donc, c'est simple, c'est clair. Il faut dire non, on ne cherche pas à savoir combien d'apport ça va donner aux coureurs. C'est stop, c'est niette. Tout le monde s'engage et on s'engage les uns envers les autres. On est capable de se dire autour d'une table, on est capable de se réunir à 25 patrons d'équipe et de se dire les yeux dans les yeux.
Tu crois à ce que tu dis,
on n'utilise pas.
Et tu penses vraiment
Alors, l'étape suivante, c'est à l'ITA de faire le gendarme et de veiller à ce que personne n'utilise.
Oui, mais là
quelle
aussi,
est la dernière décision La dernière décision, Marco, que vous ayez tous pris en commun et où tout le monde était d'accord?
La dernière.
Voilà.
Oui, donc c'est
parce que le premier qui va vouloir.
En fait, que tu formules.
Là où je comprends pas vos instances.
C'est un vœu pieux, mais au moins essayons. Parce que si on repart dans des études, dans des analyses, dans des machins, dans 5 ans, dans 10 ans, ni encore.
C'était le cas avec les cétones, c'était le cas avec les tramadol, c'est une vieille histoire avec la cortisone. Et moi, il y a quelque chose qui résonne dans mes oreilles. C'est ce qui résonne dans mes oreilles aujourd'hui et ce qui fait écho à ce que dit Marc, c'est qu'on va en revenir encore une fois au même patron d'équipe. Les mêmes qui te disent, moi mes coureurs ils font attention, ils sont pas à la bière, mais les tiens ils prennent des cétones, de la cortisone probablement et du monoxyde de carbone. Ces gens-là, de toute façon, ils vont te tourner le dos dès que tu vas vouloir prendre une décision, parce qu'ils sont là pour le profit et pour leur gloire personnelle. Et si on n'est pas vigilant, comme le dit Marc, laisse-moi finir, Pascal. Les instances, parlons-en et ça pourrait faire une émission complète, les instances dans le vélo en ce moment. Ce qui moi m'inquiète, c'est les coureurs, et leur staff, parce que ils sont chez eux, les mecs. Et à se faire dominer comme ils se font dominer, me revient à la tête certaines paroles de mes copains quand j'avais 21, 22, 23 ans. On ne va pas y aller avec notre couteau. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des dérives. Parce que tout Marc qu'il est, il le sait. Il va tout faire bien. Mais s'il a 2-3 gamins qui ont un peu les dents qui raillent le parquet, et que quand ils étaient juniors, il leur mettait des volets et qu'il arrive sur le tour et qu'il n'arrive plus à suivre, ils vont déconner. Ils vont tester le truc tout seul. Et là, il va y avoir des dérives. Il va falloir que vite le cyclisme et que les instances, Pascal, là je te réponds, se remettent en ligne avec l'essence même de notre sport, c'est-à-dire l'effort physique et pas le profit. Et j'espère que notre président, qui est français, de l'UCI, compris que ce rôle-là, c'est pas pour faire du fric et se faire un réseau pour aller plus haut. C'est bel et bien de régler les problèmes qui sont au sein de son sport et il y en a énormément.
Marc,
je vais me tourner vers toi, Christophe. Tu es commentateur du cyclisme. Tu vas avoir, dans les semaines qui viennent, à commenter les plus grandes épreuves, notamment celle du mois de juillet. Comment vas-tu commenter quand tu sauras qu'un certain nombre d'équipes utilisent ces méthodes par rapport à d'autres équipes. Comment tu vas faire toi ton commentaire sur le Tour?
Alors on est avec Arnaud, puisqu'on commente tous les deux, et c'est un problème qu'on a régulièrement quand on commente le Tour de France. On a toujours des interrogations. Ça peut d'ailleurs occasionner quelques frictions entre nous, entre ceux qui disent moi j'y crois moyen, mais on a toujours au fond de nous. Moi j'ai quand même connu les années 90 où tout le peloton.
Mais là tu suspectais, mais là tu le sais, il s'en cache pas.
Tu le sais là.
Là tu le sais, mais moi j'aimerais bien.
Mais pour l'instant personne ne dit c'est du dopage ou pas.
Que les gens de
la
de l'AMA arrivent à nous expliquer en quoi. Moi, j'aimerais bien qu'on comprenne et que le grand public comprenne les effets que peut avoir ce truc. Est-ce que c'est considéré comme un produit dopant? Je voudrais bien qu'on nous l'explique. Comment ça marche?
Et ben
comment ça fonctionne? Pour qu'on sache si c'est vraiment du dopage ou non. Parce que là, c'est un peu nébuleux tout ça.
Et ben justement, nous allons accueillir Marc Kluzinski, pharmacien et responsable de la rubrique Front du dopage du magazine Sport et Vie. Bonjour Marc.
Oui, bonjour à tous. Bonjour aux journalistes, aux intervenants et aux auditeurs. Je rejoins naturellement les avis de Marc Madio et Jérôme Pinault. Ce qu'on peut dire, c'est que on a en face de nous des gens qui ne sont pas des enfants de cœur, qui cherchent, bon, je parle du UAE, Jumbo, voire Israël. Ils sont devenus des spécialistes du contournement de la liste des interdictions de l'AMA. On peut dire des spécialistes des méthodes et substances de la zone grise. Et cette utilisation du monoxyde de carbone que j'appellerai dans la suite de mon intervention CO, elle n'est pas nouvelle. Elle a été utilisée en 2006 par l'équipe T-Mobile. Bon, il s'agit de faire respirer aux cyclistes 5 fois par jour 100 ml de CO pendant 3 semaines. Mm-hmm. Bon, l'AMA n'a pas l'air d'être au courant de l'amélioration.
Et qu'est-ce que ça produit alors? Qu'est-ce que ça produit de respirer, d'inhaler comme ça 5 fois par jour des doses de monoxyde de carbone? Qu'est-ce que ça produit dans le corps? Est-ce que ça a des effets sur le corps, justement sur la puissance d'un coureur cycliste?
D'accord, bon, ça met le corps en hypoxie. Il y a 5% d'HBCO, l'hémoglobine liée au monoxyde produit. C'est pas dangereux. Tout au plus, on peut avoir quelques maux de tête. Par contre, bon, l'amélioration, c'est 4,8% en plus de la masse totale de l'hémoglobine, 13,8% sur l'hématocrite, le pourcentage de globules rouges, et après que le monoxyde de carbone se soit évacué de l'organisme, au bout de 3 semaines, on a une augmentation du VO2 max de 3%. Bon. Cette étude, je vous cite les chiffres d'une étude qui a été réalisée en 2020 par le professeur Wolfgang Schmidt, un Allemand. Bon, rien ne dit que les équipes UAE et autres, les deux autres, Jumbo et Israël, ont utilisé ce protocole. On peut très bien supposer, vu les performances réalisées cette saison par Pogacar et même Vingegaard, que les doses inhalées étaient supérieures.
Ok, on peut pas le contrôler en fait, c'est ça le problème.
Bah non, c'est pas interdit. Pour l'instant, c'est pas interdit.
Jérôme veut intervenir et après je vous redonne la main.
Moi, j'ai une question, et puisqu'on est entre nous, on va se poser des questions comme entre copains. Docteur, si imaginons, parce que on ne sait pas. Que les grands stages et les longues périodes en altitude de la part de ces grands champions, de ces grandes équipes, profitent à deux choses. Créer ce besoin en hémoglobine et donc de mettre le corps en échec pour qu'il produise et qu'on puisse avoir ce taux d'hématocrite qui remonte. Mais imaginons qu'il n'y ait pas que des gens très honnêtes et qu'on fasse aussi quelques prélèvements sanguins et donc qu'on repratique les transfusions sanguines en microdose. Et est-ce qu'on peut imaginer que le monoxyde de carbone puisse accompagner et augmenter et développer encore un peu plus longtemps, parce qu'on sait que la problématique, c'est de redescendre du stage d'altitude et qu'on soit permanent sur long terme. Est-ce que les deux pratiques associées pourraient permettre d'augmenter considérablement les performances de certains coureurs?
Oui, naturellement. Et je pense que l'utilisation du monoxyde de carbone n'est pas la seule pour expliquer les performances actuelles de la dernière saison. Hein. L'étape du plateau de Bay par Pogacar, bon, il bat le record de Pantani. Bon, à près de 7 watts par kilo au bout de 200 km. Bon, il n'y a pas que le monoxyde de carbone. Mais ce qui est étonnant dans cette méthode, c'est que les équipes utilisent le calcul de la masse totale de l'hémoglobine. Et tout ça pour voir si au bout de 3 semaines de mise en hypoxie par le monoxyde de carbone, ils sont encore dans les clous du passeport sanguin. Donc il est... Bon, l'utilisation de ce calcul de la masse totale de l'hémoglobine, je vous répète qu'il est interdit par les experts du passeport sanguin, parce que justement, il faudrait faire respirer du monoxyde de carbone aux cyclistes, qui est contraire à l'éthique. Donc, ces équipes utilisent un procédé qui n'est même pas autorisé aux experts du passeport sanguin. Bon, là, on est en pleine... c'est le monde à l'envers.
Alors Marc Kuzinski, pharmacien et responsable de la rubrique Front du dopage du magazine Sport et Vie, je le rappelle. Une question toute simple, dernière question toute simple. Est-ce que pour vous, c'est du dopage ?
Mais naturellement, c'est du dopage. La méthode répond bien à ce que dit Lama. Hein, toute manipulation intravasculaire du sang par des procédés physiques ou chimiques, bon, elle est dans les méthodes de dopage classées en M1.3, c'est bien sûr du dopage.
Ok, c'est du dopage.
Oui, pourtant, on a compris que l'AMA et l'UCI n'ont pas vraiment envie de se pencher sur le dossier en disant qu'il n'y a pas, de certitude.
T'as compris que l'AMA et l'UCI avaient beaucoup de mal à aller contre ces deux équipes-là. Ça fait un moment que ça dure quand même. Hein.
C'est...
Oui, mais il ne faut plus compter sur l'AMA pour être le gendarme de l'antidopage. L'AMA a perdu sa crédibilité depuis des années, depuis l'affaire Armstrong, le dopage d'État en Russie, les couvertures de cas positifs par l'athlétisme du temps de Lamine Diak, les 23 nageurs chinois positifs à la trimétazidine avant les JO de Tokyo. L'AMA n'a plus aucune crédibilité, elle est là. Comme dit le docteur, disait le docteur Alain Garnier, qui avait osé critiquer l'AMA dans la conduite de l'affaire Armstrong, il s'est fait vider après. L'AMA est là pour gérer le dopage, pour qu'il ne nuise pas au sport. Donc, on va dire que l'AMA.
C'est très grave ce que vous dites, Marc. Est-ce que tu abondes un peu en ce sens ?
Bah, je ne suis pas suffisamment dans les instances pour pouvoir avoir un avis sur la situation. Moi, je vois une situation aujourd'hui où une méthode. Qui améliore la performance tend à se développer. Aujourd'hui, elle est encore utilisée de manière embryonnaire par quelques équipes. Je sais par nature que si on ne fait rien, ça va se développer et ce sera de pire en pire.
Et là, voilà. Tu dis c'est pire que le PO dans les... On est mort ?
C'est pas pire. Enfin, c'est... Le problème, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui que ça existe, mais comment on va pouvoir apprécier et mesurer la qualité des performances. Comment vous, les commentateurs sportifs, vous allez pouvoir faire ? Si vous savez que telle et telle équipe utilise et que telle ou autre équipe n'utilise pas, vous allez faire deux classements ?
Mais en plus, Marc, on parle d'un sport où il y a eu un tel passé. Enfin, la solution de Marc, elle est claire. Si tu veux retourner vers la crédibilité, redonner de la crédibilité à nos athlètes et qu'on puisse autour de la table se dire mais oui, mais il était bon quand il était jeune, c'est normal qu'il soit dominant. Mais il faut déjà passer par là. C'est à nous les équipes, enfin à vous maintenant, et c'est à eux de se mettre autour d'une table et de dire stop, on fait pas ça, comme ça au moins on est tranquille. Mais il a des collègues, la moitié, qui quand ils vont sortir de la salle, ils vont dire ah non mais lui, il est gentil le petit français, mais nous... Là où il faut que ça tombe, donc ces conneries, nous on fait ce qu'on veut. Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Ouais,
c'est pareil avec les cétones, c'était pareil avec la cortisone, c'était pareil avec le tramadol, et c'est pas fini.
Ok, Pascal.
Mais en étant tous à l'eau claire, les classements seraient les mêmes. Donc pourquoi ? Ils n'ont pas intérêt. Ils gagneraient autant de fric, Pogacar, s'il était à l'eau claire, et si tout le peloton était à l'eau claire. Mmh. Donc moi, en fait, je te donne un avis, je suis un passionné de sport, j'adore le vélo, le Tour de France, je le manquerais pour rien au monde, mais cette année, quand j'étais dans ma bagnole et que j'écoutais mes collègues, j'avais envie de leur téléphoner, leur dire « vous foutez de ma gueule ou quoi ?» Pogacar, il se fout de la gueule du monde. Et bon, on voit qu'il est dopé. C'est impossible les performances qu'il réalise.
Pascal, juste, on peut pas dire ça. C'est ton sentiment et tout ça, mais on peut pas dire que Pogacar est dopé. Enfin,
je sais pas. J'ai l'impression.
Moi, je peux pas non plus. Moi, je peux pas non plus te laisser dire que sans dopage, les classements seraient les mêmes. Ça, ce n'est pas possible d'entendre ça non plus.
Non.
Moi, j'ai fait des Tours de France à la flotte, tous à la flotte. J'ai fait des placements 27e. Il y avait des mecs devant moi qui se sont fait choper. Je suis pas sûr que j'étais moins bon qu'eux sans dopage. Moi, j'en suis pas sûr. Faut réussir à me le prouver. Demande à Marc. J'aimerais bien qu'il s'exprime. Si
parce qu'il y a une partie du peloton qui n'est pas dopé.
Ah oui, il y a une bonne partie du peloton qui fait bien son métier. Dont certains coureurs de chez Marc, un bon petit coureur qu'on a dû entendre parler chez qui on a énormément d'espoir, qui s'appelle David Gaudu. Je vous signale que David Gaudu, tout ça là, il l'entend aussi. Il dit mais attends, je vais aller moi 6 semaines en altitude, je vais aller 3 mois loin de ma famille, c'est mon job, ok. Mais quand je suis sur la ligne de départ, certains sont autorisés à des pratiques qui sont dans la zone grise. Moi, mon patron me dit non parce que je suis un mec. Mais le mec, il perd ses moyens aussi à cause de ça. Et ça, il faut le mettre en place. Tu peux dire ça, Pascal. Tu peux pas dire
oui,
ce serait le même classement. C'est faux. C'est faux.
Après, j'arrive pas à expliquer comment les instances, et notamment l'UCI, par exemple, qui a la possibilité de dire non, on n'utilise pas. Ils ont là, cette latitude. Votre président français de l'UCI, il peut dire non.
Le monoxyde de carbone, il peut dire non, mais il ne peut pas le faire sans la main.
Voilà, et aujourd'hui, on a traité hier avec l'affaire du tennis et du dopage et des contrôles dans le tennis. Aujourd'hui, les instances internationales et l'AMA, ils sont sur les freins, surtout tout ce qui concerne
et
le dopage.
Et
ils veulent surtout pas se mêler de ça, surtout.
Parce qu'il y a des gros risques juridiques.
Mais en plus, moi, est-ce que un David Gaudu, justement, Marc, vient te voir? Est-ce que tes coureurs soupçonnent les autres en disant c'est pas possible?
Non, objectivement, non. On est.
Donc ils acceptent.
Vous en parlez jamais.
Non, qu'on n'en parle pas, mais on est dans des compétitions. On est là pour donner le meilleur de nous-mêmes. On s'entraîne le mieux possible en respectant les règles. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ce qui se passe en ce moment, c'est de mettre mes coureurs dans les meilleures conditions possibles et d'être le plus à égalité possible avec la concurrence. C'est un problème de crédibilité. Comment peut-on au-delà du résultat brut de la course, comment peut-on être crédible? Comment peut-on être crédible pour attaquer la saison qui arrive si on sait que certaines équipes utilisent ce type de méthode et que d'autres équipes ne l'utilisent pas? C'est un problème de crédibilité de notre sport, parce que les gens devant leur écran de télévision vont forcément se faire la réflexion: est-ce que celui-là il respire du monoxyde de carbone? Est-ce qu'il a le nez dans la gazinière pour respirer du charbon? Arrêtez un moment.
Et toi, Marc, aujourd'hui, dans les grandes gueules du sport, tu demandes à tous tes collègues, à tous les patrons d'écurie, de vous réunir et de stopper le monoxyde de carbone.
Mais on peut très bien le faire, c'est facile.
C'est fini.
C'est facile, c'est simple de se dire allez, les gars, on se réunit, on se met autour de la table et on dit stop. C'est dur de faire ça? De dire stop?
Ben, faut croire que oui.
Ah oui, c'est très dur pour
puisqu'ils
certains.
Qu'ils le font pas.
Oui, c'est sûr.
Et c'est pour ça que quand tu. Jean-Christophe, quand tu me reprends, quand tu me dis tu peux pas dire que Pogacar il est dopé, mais pourquoi il y en a qui le font et d'autres qui le font pas? Rien que le fait qu'il y ait des équipes qui le fassent pas, ça légitime que si l'histoire elle est pas très très claire. Enfin,
en plus en disant stop,
ça n'a jamais été prouvé.
Exactement, tu sors grandi.
En disant stop, on se grandit tous.
Et tu décrédibilises l'AMA qui fait beaucoup de mal au cyclisme. Pourquoi? Parce que si tu prends ta décision toi, tu dis bon, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas capable d'avancer vite parce qu'on sait pourquoi vous n'avancez pas très vite, ça vous profite à vous. Donc nous on va le faire. Parce que l'AMA cette année, elle a eu deux cas à traiter importants. Elle a suspendu à vie Franck Bonamour puisqu'il a décidé d'arrêter sa carrière parce que la lenteur du processus a ruiné Franck. Il a dû vendre un bien personnel pour se défendre, pour au final aboutir sur rien. Donc Franck Bonamour, dopé, pas dopé? Moi je dis non. Eux ils disent on sait pas, c'est à toi de prouver. Donc il arrête sa carrière. Il y a quand même encore du dopage dans le vélo puisque le vice-champion U23 de contre-la-montre, un Polonais, a été pris positif à l'EPO la semaine dernière. Ça, l'AMA il est capable de le faire. L'AMA il montre des choses voyantes. Et derrière, comme ça, il est tranquille avec les grands, parce qu'à qui profite le crime? Évidemment, tout ça, c'est une question de gros sous aussi.
Ok, en tout cas, c'était très passionnant de vous écouter ce matin sur ce dossier, le monoxyde de carbone. Et forcément, vous êtes bien placé pour en juger. Vous êtes dans ce milieu et on a compris l'appel de Marc et on espère qu'il aura une résonance. Évidemment, on remercie Marc Luzinski d'avoir été avec nous, pharmacien et responsable de la rubrique Front du dopage du magazine Sport et Vie. Merci beaucoup, Marc. On refera peut-être un autre dossier et on se permettra de vous rappeler. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Tout autre sujet, on se retrouve dans quelques instants pour la punchline des GG. On va parler de Mathieu Jalibert qui, pour la première fois, a pris la parole publiquement depuis son départ du 15 de France. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Ah, on est les meilleurs, on s'en fout.
Jean-Christophe Drouet.
10h34, nous sommes là pour vous accompagner. Je ne sais pas si on est les meilleurs, mais on est très heureux d'être avec vous et on espère en tout cas que l'on vous divertit, que l'on vous apprend des choses aussi avec ce débat passionnant à 10h sur le monoxyde de carbone dans le vélo. Vraiment, merci beaucoup Marc Madiot, Jérôme Pinault d'être avec nous parce que c'était extrêmement intéressant de voir cette nouvelle pratique venir dans le vélo. On est toujours avec Pascal Duprat, Christophe Cessieux également à partir de 11h. On ouvrira le dossier Mbappé, ça fait longtemps. Est-ce qu'il vous fait de la peine, Kylian Mbappé?
Un petit débat Mbappé.
Mais oui. Bah
oui, ça va être
bon. Ça nous manquait. Pour le dimanche.
C'est normal. Ça va bien finir notre matinée.
Exactement, ce sera
c'est
à partir de 11h.
Hier, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe?
Je te l'ai réservé pour dimanche. On vous attend au 32-16.
Golf aussi, comme.
Non, pas de golf. Pas de golf de prévu, mais tout de suite du rugby.
Voilà, c'est une exclusivité pour tout l'amour que vous nous donnez au nom de toute l'équipe. Merci beaucoup, merci pour le soutien, merci pour le message.
Il est sorti du silence pour la première fois hier après la victoire de son équipe l'UBB face à Montpellier. Mathieu Jalibert a pris la parole publiquement, tout d'abord sur la pelouse pour annoncer sa prolongation de contrat pour la première fois depuis sa mise à l'écart du 15 de France et son départ en pleine tournée. Il a donc pris la parole, l'ouvreur a donc fait une annonce, vous l'avez entendu. Il avait un message à faire passer également, certainement pour les suiveurs, le sélectionneur ou ses coéquipiers en bleu. Nicolas Paolorsi, notre correspondant à Bordeaux, est avec nous. Bonjour Nicolas.
Salut les GG, salut à tous.
C'est vrai que Mathieu Jalibert avait beaucoup de choses à dire hier.
Oui, alors après cette scène-là que vous venez d'entendre sur le terrain, bah derrière, il vient face aux médias et voilà, il vient de façon naturelle. C'est important de le dire, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent se cacher dans ce genre de situation. On est bien placé pour le savoir. Là, c'était absolument pas le cas. Et comme toujours, c'est un Jalibert franc qu'on retrouve, qui n'élude aucune question, même quand on vient l'astiquer un petit peu sur son départ de Marcoussi lors de la dernière tournée.
J'ai exprimé des choses à Fabien sur un certain mal-être que j'avais et on m'a proposé de faire un break et de rentrer à Bordeaux, chose que j'ai acceptée. Mais voilà, comme je l'ai dit, je me suis pas éloigné de l'équipe de France. Je reste encore un joueur de l'équipe de France et si on fait appel à moi, je monterai avec le plus grand plaisir. Mais je pense qu'on parle beaucoup de bien-être et de santé mentale et parfois il faut savoir dire stop quand il y a un trop-plein. Et c'était pour moi, je pense, la meilleure option pour tout le monde et ça m'a fait du bien.
Je suis encore un joueur du 15 de France. Ça, c'est la grosse déclat quand même de sa prise de parole, parce que c'est vrai qu'on se posait des questions. C'est un personnage clivant, Mathieu Jalibert. On en a beaucoup parlé dans cette émission et on lui a demandé comment il vivait le fait que la moindre petite actu qui tournait autour de lui prenait cette ampleur. Écoutez-le.
Ouais, parfois c'est pesant. En fait, c'est surtout que j'ai toujours l'impression qu'on essaye de me donner une mauvaise image. Je sais que j'ai pas toujours tout fait parfaitement dans ma carrière, mais je pense que j'ai toujours été honnête et droit dans mes bottes et je peux me regarder dans une glace. C'est ce qui est le plus important pour moi, mais c'est vrai que parfois, et notamment pour ma famille, c'est assez pesant d'entendre toutes ces personnes qui donnent leur avis sans réellement savoir la situation et sans me connaître personnellement. Donc voilà, mais je sais que ça fait partie du jeu, je sais que ça fait partie de l'exposition médiatique, que je fais partie de ces joueurs qui sont un peu plus exposés que les autres. J'ai appris à faire avec, mais c'est vrai que parfois c'est un peu plus compliqué, mais globalement j'arrive plutôt bien à le gérer.
Enfin, pour terminer cette mise au point du dossier Jalibert, qui n'a éludé aucune question en conférence de presse, on a interrogé son manager Yannick Bru sur la personnalité de son demi-d'ouverture.
Il y avait beaucoup de choses qui se chamboulaient, un esprit de revanche aussi sûrement. Donc Mathieu, psychologiquement, il y avait beaucoup de choses et de conflits dans sa tête. Donc voilà, il faut qu'on maintenant on arrive à effacer ce tableau équipe de France pour s'aligner sur la page du bébé. Mathieu, il a 26 ans, ça fait grandir. C'est ce qu'on appelle l'expérience. C'est un garçon intègre, exigeant, droit, honnête. Moi, je préfère avoir affaire à cette honnêteté-là qu'à un second visage. Moi, j'y vois quand même beaucoup d'honnêteté et quelqu'un qui est très franc avec les coachs avec lesquels il fonctionne.
Voilà, ce qu'il faut retenir quand même de cette prise de parole, c'est que on a dit que c'était Mathieu Jalibert qui avait quitté le rassemblement, et on apprend que c'est Fabien Galthié qui lui a laissé cette opportunité là. Et puis on a surtout la sensation que c'est un joueur qui arrive un peu au bout du rouleau, qui avait besoin juste de se ressourcer, un peu à l'image d'un Greg Aldrit la saison dernière, sauf que là ça a défrayé un peu la chronique. Mais vraiment, après cet échange avec lui hier, on se dit que son avenir en équipe de France n'est pas terminé.
Et ben c'est justement la question que nous allons nous poser. Merci beaucoup Nicolas Paul Orsi, tu restes avec nous pour ce débat, toi qui connais parfaitement Mathieu Jalibert et qui nous a donc rapporté ses sons et cette prise de parole claire et nette de Mathieu Jalibert. Peut-il vraiment revenir en bleu, oui ou non, Christophe Cessieux?
Moi j'ai du mal à y croire.
Ok, tu as un doute. Marc Madio?
Moi je pense qu'il peut revenir.
Ok, c'est oui pour toi. Pascal Duprat?
Clairement oui.
Clairement oui. Jérôme Pinault?
Non.
C'est non aussi. Christophe, pourquoi non? Toi qui es un grand défenseur de Mathieu Jalibert.
Moi j'adore Jalibert, j'adore le joueur, j'adore côté créatif de ce garçon-là, franchement ça. Et c'est pour ça que j'ai été très étonné de ce qui s'est passé en tout début de ce rassemblement, parce que tout allait dans le bon sens pour lui, c'est-à-dire que Ntamack est toujours blessé, il est son numéro 2, donc il devait jouer, lui il était au sommet de sa forme, il fait un début de saison extraordinaire avec l'UBB, et là il arrive en équipe de France, et on lui dit non, finalement t'es pas 2, t'es 3, et puis une semaine après t'es même pas 3, t'es 4, et tu peux rentrer chez toi si tu veux. Donc effectivement, quand tu es au sommet de ta forme et qu'on te dit tu peux rentrer si tu veux, qu'est-ce que tu vas faire? Tu rentres, et c'est ce qu'il a fait. Alors on lui a dit oui, le mec a quitté l'équipe de France, mais on apprend officiellement que Galthié lui a proposé, lui a dit écoute, si tu veux tu peux rentrer à la maison, je le comprendrai très bien. Ok, le mec il avait la tête au fond du seau, il est rentré chez lui. Maintenant savoir s'il peut revenir, là c'est compliqué, parce que derrière il s'est passé des choses dans cette équipe de France. Un Thomas Ramos a parfaitement rempli son rôle, à tel point qu'aujourd'hui, je me demande s'il n'est pas passé devant Romain Ntamack en tant que ouvreur de l'équipe de France, Thomas Ramos. Tellement il a été bon dans sa gestion au pied, dans sa complicité avec Dupont. Donc, pour revenir, Jalibert va devoir maintenant non seulement passer Ntamack, passer Ramos, passer Dupont qui fait très bien l'affaire en numéro 10. Donc moi, ça me semble compliqué dans un avenir à court terme. Après, qui te dit que Galthié va faire encore 50 ans en équipe de France?
Le projet, il est sur 2027.
Il est jusqu'à 2027. Donc, voilà, 2027.
Pour la Coupe du Monde,
mais je pense que jusqu'à la Coupe du Monde. J'ai du mal à y croire.
Qu'il
y ait une épidémie de blessures chez les 10.
Qui aurait dit qu'on n'allait pas avoir Mbappé deux fois de suite en sélection?
C'est pareil, on est pas sélectionné parce que tu parles avant et le faire venir.
La vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Ça peut changer. Le temps et le sport font que.
Mais théorie, qui tombe sur les têtes de Galthié, effectivement, ça peut changer. Mais autrement, je vois pas.
Moi, j'ai aussi un souci avec le fait que. C'est pour ça que j'ai répondu non aussi. C'est que dans le sport en général et dans ce sport-là, et aujourd'hui, c'est vraiment un sujet du moment. Tout type, on a du mal à exprimer le mot dépressif. On ne peut pas imaginer qu'un sportif de haut niveau ait un passage où il est en dépression. Et pourtant, c'est ce qui se passe dans beaucoup, et chez beaucoup, et notamment en ce moment, que ce soit Mbappé, Marchand, on va en parler, et Jalibert. Jalibert dit « j'étais pas bien psychologiquement ». Pas bien psychologiquement,
c'est,
ça veut dire.
C'est l'annonce du fait qu'il ne serait pas titulaire après son début de saison.
Là-dessus, il dit j'avais besoin de rentrer à Bordeaux pour me ressourcer. Tu te fais mettre dehors, tu prends un coup sur le casque. Il faut juste se dire que quand tu es athlète et que tu te fais mettre dehors par le. Est-ce que la question, est-ce qu'il a envie d'y retourner? Évidemment qu'en conférence de presse, il vient de re-signer un contrat. Il me semble, Marc, tu me diras si je me trompe, qu'un contrat d'international est un peu plus juteux qu'un contrat s'il avait dit je veux plus aller en équipe de France. À mon avis.
Il a envie, il a 26 ans, je te confirme
Jérôme qu'il a signé un joli contrat, Mathieu.
Est-ce que lui il a envie d'y aller maintenant, mais dans quelles conditions? Parce que quand il va, t'as envie de jouer. Quand tu t'appelles Jalibert, tu vas pas pour être numéro 4 à ton poste, tu vas pas jouer,
bien sûr.
Alors est-ce qu'il a envie, et est-ce qu'il a pas compris finalement là en ce moment qu'il y avait 3 mecs qui étaient passés devant, et que est-ce qu'il a envie d'y aller lui-même? Il dit je suis à la disposition du coach pour jouer, pas pour aller compter les carottes, quoi.
Non, mais les...
Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est fort dans ce qu'il dit quand même, les amis, c'est qu'il dit j'avais des choses à dire à Fabien Galthié depuis la Coupe du Monde. C'est-à-dire que même cette gestion de la Coupe du Monde, où vous vous souvenez quand même qu'il part en numéro 2 sur la Coupe du Monde, Romain Tamak se blesse, et quand même, on va gagner le match d'ouverture de la Coupe
contre
du Monde
contre les Blacks,
avec Jalibert à l'ouverture. On fait une Coupe du Monde où on perd d'un point contre les futurs champions.
Il réalise pas un match extraordinaire face à l'Afrique du Sud.
Non, mais il est là. Il est là. Donc, il fait partie de ton équipe qui fait la Coupe du Monde au même titre que certains. Et en fait, il a été victime d'un déclassement derrière terrible parce qu'il fait un tournoi de destination où il passe à côté. Mais comme tous les mecs qui ont joué la Coupe du Monde, qui étaient tous complètement bouillis, rôtis, sauf que tout était cristallisé sur lui. Et je pense qu'il a mal vécu le fait d'être un peu responsable de ce déclin du 15 de France sur 6-8 mois. Et en fait, le mal, il vient pas que de cette tournée d'automne. Il est beaucoup plus profond. Donc tu vois, quand il parle de bien-être, en
c'est
fait,
ce qu'il explique,
c'est pas que le fait d'être déclassé. Ça vient sur ces 8-10 mois, tu vois, derniers, où il y avait des choses qui n'allaient pas dans sa gestion.
J'ai l'impression que, pardon, hein, messieurs les journalistes, mais les médias nous ont vendu, avant cette tournée d'automne, le fait, qu'il soit parti de Marcoussis et qu'il ait claqué la porte, en quelque sorte.
On apprend,
j'ai pas dit que c'était toi, je te parle de la profession. Moi, j'avais l'impression, quand je lisais la presse, que Jalibert avait claqué la porte.
Mais tu sais pourquoi, Pascal? Tu sais pourquoi? Parce que c'est ce qu'a fait fuiter Fabien Galthié.
Ouais. Bon, alors laissez-moi terminer mon argumentaire.
Vas-y.
Donc en fait, je sais que Jalibert, avant même de monter à Marcoussis, il apprend qu'il ne sera pas titulaire. Donc ça le perturbe. Honnêteté intellectuelle du sélectionneur, il l'appelle en amont en lui disant « tu ne vas pas être titulaire ». Donc il se passe ce qui se passe, il se voit donc bien entendu à Marcoussis, et à un moment donné, il décide, parce qu'on lui entrouvre la porte, encore une fois, le sélectionneur lui entrouvre la porte et lui dit « si tu veux, tu peux retourner à Bordeaux ». Il emboîte le pas, il repart à Bordeaux. À partir de là, puisque, il n'y a aucune raison que je ne le pense pas, Galthié est honnête intellectuellement, et puisque Jalibert a du talent, il reviendra en équipe de France. Point barre.
Voilà. Okay. Mais il y reviendra. C'était clair, c'était précis. Juste, les copains, on va marquer une courte pause et on continue de parler de Mathieu Jalibert, parce que je voudrais vous faire écouter justement Fabien Galthié sur cette histoire avec Mathieu Jalibert. Reste avec nous, Nicolas Paul. Alors si on en parle et on continue d'en parler dans les GG, appelez-nous évidemment au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Et nous avons un petit peu bousculé notre programme car le débat sur le monoxyde de carbone dans le cyclisme était passionnant à partir de 10h. Et là aussi, c'est passionnant sur Mathieu Jalibert. Vous retrouverez les GG contre-attaque à 11h40. Tout à l'heure, les copains, à partir de 11h, on parlera de Kylian Mbappé. Vous fait-il de la peine? Mais donc, restons un instant sur Mathieu Jalibert. Peut-il revenir en bleu, lui qui a pris la parole pour la première fois depuis son départ du 15 de France? C'était hier après la victoire de l'UBB face à Montpellier. Il le dit, Fabien Galthié lui a proposé de quitter le rassemblement, c'était entre le Japon et la Nouvelle-Zélande, parce qu'il sentait qu'il n'allait pas bien. Et pourtant, ce même Fabien Galthié, le lendemain du départ de Mathieu Jalibert, voici ce qu'il disait sur les joueurs qui ne jouent pas. Fabien Galthié.
On prend le temps de discuter avec tous les joueurs, beaucoup de joueurs, soit qui repartent, soit qui restent avec nous comme joueurs supplémentaires. L'émulation dans cette équipe, elle est très importante. Le projet, il est collectif. Hein. Et pour construire une équipe, ce qui est important pour nous, c'est la détermination du moment, la force individuelle qui va servir au collectif. Ces 4 semaines nous permettent d'embarquer tous les joueurs qui sont en capacité pour jouer avec l'équipe de France et traverser les moments heureux et les moments aussi difficiles.
Il lui met une cartouche, là. Il cible Mathieu Jalibert, lui disant bon, il n'est pas concerné, il n'a pas envie de rester, donc il est parti. Il nous fait comprendre que c'est la décision de Mathieu Jalibert.
Ouais, alors que ce n'est pas du tout le cas.
Formidable communication.
Alors que Galthié donc, fait venir Jalibert, il le met d'abord remplaçant, alors que la hiérarchie étant ce qu'elle est, et Ntamack étant absent, c'est lui qui doit être titulaire. Il n'est pas titulaire pour le premier match, et à la fin du premier match, il rentre. Malheureusement, il fait une passe qui est interceptée. Donc là, c'est un prétexte supplémentaire pour Galthié, qui décide en plus de changer sa façon de gérer le banc des remplaçants. Il passe en 6-2, c'est-à-dire avec 2-3 quarts seulement. Et là, il n'y a plus du tout de place pour Jalibert. Et il lui dit en plus, et ce sera la même chose pour l'Argentine. Donc maintenant, tu fais ce que tu veux. Tu joueras pas, mais si tu veux, tu peux rester avec tes copains.
C'est fou de dire après en conférence de presse, oui, mais attendez, si vous n'êtes pas motivé, je garde pas les gens pas motivés.
Et en plus, une fois Jalibert parti, il envoie un texto à Mathieu Jalibert en lui disant ce serait bien que tu ne t'exprimes pas devant la presse. J'ai lu le texto. Donc,
Ok, donc tu peux nous le dire. Tu es en capacité de nous le dire. En tout cas, elle s'est exprimée en disant tout bien qu'il pensait du 15 de France.
Je te conseille de ne pas régler tes comptes. Voilà.
Bah, il ne les a pas réglés, en tout cas.
Non. Il a fait le job.
Il a dit qu'il avait envie de revenir.
Je suis encore ouvert à l'équipe de France. Il faudra peut-être évoquer. Alors, c'est un problème, mais ça, pour l'instant, ça ne sort pas vraiment. Mais les rapports que Jalibert peut entretenir avec ce qu'on appelle le clan des Gersois en équipe de France, c'est-à-dire Antoine Dupont, Grégory Aldridge, Jelonche et tous les autres, c'est les patrons du 15 de France. Il y a Galtier et puis juste en dessous, il y a son capitaine. Et on se souvient, alors même si on nous dit non, ça n'a eu aucune conséquence, moi j'en suis pas si sûr que ça. Ce qui s'est passé l'année dernière en phase finale avec ce match qui opposait La Rochelle à l'UBB, ce raté de Aldridge et ce chambrage de Jalibert sur Aldridge, je pense que c'est pas complètement oublié.
Et on en avait parlé dans cette émission d'ailleurs.
Je crois que Jalibert, il y a un déni de sale gueule autour de ce gars-là. Moi, je peux vous assurer que pour le connaître depuis bien longtemps, parce que Mathieu Jalibert, c'est un enfant de l'UBB, hein, il est formé au club. Donc moi, quand je suis arrivé sur Bordeaux, il était encore un espoir. C'est quelqu'un qui a une personnalité, on le disait tout à l'heure, assez clivante, assez bling-bling, qui peut trancher des fois avec ce milieu du rugby qui est très terroir, territoire et tout ça. C'est un mec qui aime bien s'afficher dans des endroits branchés, qui aime bien aller en vacances à Dubaï, qui aime bien aller dans des endroits branchouilles de la capitale, qui aime bien qui supporte le Paris Saint-Germain.
Il est un peu tripouteux, quoi.
Ouais, c'est un peu ça. Non, mais Pascal, tu vois, il aime bien. Je vais pas dire qu'il est showbiz, Jalibert, parce que c'est pas ça. C'est un mec aussi qui est très famille. Mais il est un peu bling-bling, exactement.
Ouais. Et je crois vraiment.
On lui affuble cette étiquette de mec un peu bling-bling, hors sol, qui se la raconte. Sauf que franchement, je vous assure que c'est pas ça. Alors, il l'a dit, et il le dit de lui-même. Bien sûr qu'il y a des fois, il a fait des mauvais choix, il a mal géré sa carrière à certains moment, et je pense que le geste sur Aldridge, il le regrette par exemple. Je pense qu'il y a eu 2-3 choses aussi à l'UBB dans sa gestion avec des coachs qu'il a regretté, mais parce que c'est un mec qui est juste franc. Et là, quand le gars il arrive et qu'il attend à être un peu responsabilisé par le staff, qu'il voit qu'il a aucun échange avec le staff du 15 de France, que le mec se retrouve numéro 4, qu'il ne comprend pas parce qu'il fait un début de saison monstrueux. Et en fait, moi je reproche au staff du 15 de France son manque de transparence. Il y a un moment où si le mec il rentre pas dans ton projet, et bah tu lui dis, écoute Mathieu, tu rentres chez toi, on va mettre des joueurs, et par contre si on a Ramos qui se pète, si on a Ntama qui se pète, tu reviens en tant que numéro 1. Mais on sait très bien que toi, numéro 3, ça peut pas marcher, ça pourra pas marcher. Voilà. Okay. Et au moins, il a eu le courage de faire ça, et je pense que ça va clarifier les choses pour la suite jusqu'en 2027.
Hervé nous appelle au 32-16, il était au stade hier. Bonjour Hervé.
Bonjour à tous. Alors, on m'excuse, il y a un peu de bruit, je suis en supermarché. Donc,
c'est important de faire ses courses le dimanche matin.
C'est ça. Alors, premièrement, je trouve que certains sur le réseau s'en sont plaints, mais je trouve que c'est bien que le joueur il s'exprime devant ses supporters au stade, plutôt que de faire une Griezmann ou un truc sur les réseaux. Je trouve que c'est bien parce que, en plus de ça, Sud-Ouest a respecté, parce qu'ils ont fait un entretien avec lui mercredi, ils ont respecté le silence et on a pu avoir l'annonce. Je trouve que c'est bien, parce qu'on retrouve des choses simples et je trouve que c'est intéressant. Deuxièmement, mais il s'est pas caché quoi, il a été directement derrière les micros et il a parlé. Vous allez parler d'Mbappé tout à l'heure, qui est dans le trou. Je pense que ce que je disais à votre collaboratrice, c'est que on oublie, je pense, de traiter l'impact de la Coupe du Monde sur les joueurs. On a eu Aldridge qui s'est arrêté. Je pense que Jalibert a quand même été sur le devant de la scène pendant la Coupe du Monde et derrière, ça a été difficile. La saison dernière a été compliquée. Il avait déjà exprimé en fin de saison, rappelez-vous, la finale, il finit, il joue, il ne doit pas jouer, il est sur les jantes. Et je pense que psychologiquement, les gars, ils sont rincés. Donc à un moment donné, il pète. Alors Jalibert, la différence des autres, c'est qu'il parle. Alors est-ce que aussi on peut faire en sorte de l'écouter et puis de dire peut-être que il y a des joueurs qui à un moment donné ne peuvent pas assumer et ils prennent des décisions. Alors les décisions, elles sont clivantes. Le problème de Galtier aujourd'hui, c'est qu'il a des joueurs. Il a pléthore de joueurs. Donc à lui de décider quelle équipe il veut, puis il y a des joueurs qui sont sur le côté. Ça c'est normal. C'est comme Deschamps, il fait des choix aussi.
Je pense que tout le monde peut comprendre les choix, mais il faudrait encore pouvoir s'expliquer clairement et dire vraiment la vraie version de comment ça s'est passé et ne pas tout mettre sur le dos de Jalibert. Et ça, je pense que c'est important. En tout cas, merci Hervé de nous écouter, même quand tu fais les courses. Voilà, t'es là avec tes oreillettes et tu nous écoutes, t'as envie de nous appeler. Paf, t'es en direct.
Te trompe pas, parce que sinon, maman va pas être contente si tu te trompes de produit.
Ah, tu dis, t'es quelqu'un qui dit maman, toi?
Quand tu vas faire les courses, le dimanche, tu dis maman.
Un dernier mot, tu voulais réagir.
Je disais aussi que c'est aussi un truc qui m'interpelle, moi, c'est qu'un joueur comme Jalibert nous dit en conférence de presse, j'avais des choses à dire après la Coupe du Monde. Il y a quand même eu du temps de passer. On a un manager qui est là pour ça, écouter, entendre, pour réorganiser sur un projet qui nous vend.
Mais il y a eu un déni de la part du staff.
Donc, je vous lâche même une petite info là, très rapidement. Mais en fait, Jalibert s'est confié à la cellule mentale du 15 de France. Il y a une cellule psychologique mentale, et en fait, cette cellule mentale a rapporté les propos de Jalibert à Fabien Galthié au sélectionneur.
Ah,
c'est comme ça que Galthié a été au courant.
Ça fonctionne très bien.
Donc tu vois, c'est là où Jalibert n'a pas du tout compris, parce que
le psy a balancé au sélectionneur.
Et ouais, c'est ça.
Ça c'est bien pour la fois suivante.
Ok, bon, merci pour cette information.
Là, ça va encourager les prochains joueurs à aller les voir.
C'est formidable.
Non, mais ça fait des ordres et c'est important de le préciser. Merci Nicolas.
On a une charte éthique, on a tout recadré. Normalement, ça devrait bien se passer.
Et merci pour ce reportage à Bordeaux avec les premiers propos de Mathieu Jalibert. 10h57, on se retrouve dans quelques instants. Un autre joueur, un autre sportif, un autre champion est un peu dans le trou. Vous le savez, c'est Kylian Mbappé. Vous fait-il de la peine? À tout de suite sur RMC. On vous attend.
On va l'envoyer chez Galthié, tiens.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.